Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes avec Les Neveux de René, une émission consacrée à la découverte des grands auteurs et des grands textes de la philosophie. Vous êtes en compagnie de Sylvain Contasso-Vivier et de moi-même Nazim Fattès. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Anthony Feneuil. Donc Anthony Feneuil, nous l'avons déjà accueilli pour deux émissions que nous avions consacrées à la note conjointe sur Descartes et le cartésianisme, texte de Charles Péguy. Et Anthony Feneuil a fait récemment à Nancy une conférence sur le thème « Liberté et religion », thème éminemment philosophique, et c'est pourquoi nous avons voulu l'inviter de nouveau pour Les Neveux de René. Anthony, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, dire votre parcours et comment vous en êtes arrivé à vous intéresser en même temps à la théologie et en même temps à la philosophie ?
Alors effectivement, moi j'ai un parcours de philosophe initialement et puis j'ai ensuite compléter mon parcours avec la théologie. Donc je suis vraiment quelqu'un qui navigue entre les deux. Alors ça, ce serait une question en soi, le rapport entre les deux, mais disons, ce qui m'intéresse, c'est justement les lieux où les choses s'intriquent. C'est-à-dire, comment est-ce que la philosophie aide la théologie à se formuler, à se comprendre, et puis comment est-ce que la théologie donne à la philosophie du carburant pour penser.
Est-ce que d'emblée on peut dire que philosophie et théologie travaillent dans des sens différents ? Est-ce que c'est juste une image vue de l'extérieur ou même quand on regarde les choses de près, on a l'impression que ça tire dans des sens opposés et qu'il va falloir faire un travail de conciliation ?
Alors, bon, d'abord, c'est une question qui taraude et la philosophie et la théologie depuis 2000 ans, on pourrait dire, hein, donc je ne vais pas y répondre directement, mais je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Je ne pense pas que ce soit la question. C'est vrai qu'il y a une difficulté, c'est que ce sont deux manières de penser qui, toutes les deux, sont très soucieuses de leur propre autonomie, de leur propre spécificité. Et donc, aucune d'entre elles ne veut être réduite à l'autre. Mais en même temps, la théologie ne peut pas se passer de philosophie parce que la philosophie, c'est tout simplement la pensée rationnelle. Hein. C'est tout simplement la pensée qui s'interroge elle-même. Donc, si la théologie veut être conséquente, elle doit faire de la philosophie. Et puis, en même temps, la philosophie, elle ne peut pas se désintéresser des objets qui sont traditionnellement ceux de la théologie, comme Dieu, comme l'âme, comme la question de la destination d'existence humaine, toutes ces questions qui peuvent pas être abandonnées par la philosophie. Donc c'est pas qu'elle. Alors ensuite, comment est-ce que chacune se distingue ? Là, chaque théologien et chaque va avoir une réponse différente. Moi, j'aurais envie de dire que ma thèse, si je puis dire, c'est que il y a pas de différence du point de vue du contenu. Toute théologie ne peut être qu'une philosophie. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où il y a pensée, réflexion, on est dans la philosophie. Mais il y a une différence très grande du point de vue de l'enjeu, du but. La théologie, elle s'adresse toujours à des gens qui croient à quelque chose. Et elle leur parle à eux, à une communauté, qu'elle soit ecclésiale, qu'elle soit religieuse plus largement. Et la différence, elle va se jouer dans cette adresse, dans à qui on s'adresse. Alors, ce qui veut dire qu'aucune pensée n'est en elle-même théologique. Une pensée, elle devient théologique quand elle s'adresse à une communauté croyante ou quand elle est reprise par une communauté croyante. C'est pour ça qu'un texte philosophique peut devenir théologique. Inversement, un texte théologique peut être repris par la philosophie quand le philosophe le reprend pour ses propres fins, non plus pour réfléchir à l'avenir d'une communauté croyante, mais pour réfléchir conceptuellement aux questions posées.
Je pense notamment au texte de saint Augustin, par exemple, sur le temps, ce genre de choses. C'est typiquement le genre de choses qui sont reprises vraiment tout le temps par la philosophie. Hein.
Exactement. Et pourtant, on ne peut pas contester à Augustin d'être un théologien. Hein, parce qu'Augustin, c'est quelqu'un qui a pensé pour l'Église chrétienne à un moment donné.
Oui.
De ce point de vue-là, il était théologien. Chaque fois que les chrétiens reprennent sa pensée pour en faire quelque chose, pas seulement les chrétiens, d'autres peuvent le reprendre pour en faire quelque chose. Là, il y a un geste théologique qui s'opère. Mais en même temps, c'est clair que les réflexions d'Augustin sur le temps, elles sont aussi, pour la philosophie, une des réflexions les plus profondes sur le temps. Et c'est pour ça que la philosophie aurait bien tort de se priver des ressources de ce qu'on appelle habituellement la théologie pour penser. Parce qu'en fait, des fois, les théologiens, eux, ceux qu'on estampille théologiens, sans se poser trop la question, on les estampille théologiens. Et effectivement, leur problème à eux, c'est pas toujours de réfléchir au temps en lui-même ou à l'être humain en soi-même, mais c'est peut-être de réfléchir à l'avenir de leur communauté. Mais ce faisant, ils réfléchissent aussi au temps en lui-même, à l'homme en lui-même, etc., à l'humain en lui-même. Et donc, le philosophe, lui, il a tout intérêt à aller voir ce qui s'est passé dans ces traditions, a priori extérieures, qui en fait ne le sont pas. Il a intérêt à aller voir ce qui s'est passé pour trouver du miel pour sa propre dégustation, enfin son propre repas à lui.
Alors, sur le thème liberté et religion, je sais que vous intéressez à Friedrich Schleiermacher. Vous allez nous en dire deux mots, mais avant, je voudrais passer la parole à Sylvain. Sylvain, on a beaucoup étudié ensemble les textes de Leibniz, justement, notamment les principes de la nature et de la grâce fondés en raison. Est-ce que toi, tu sens que lorsqu'on parle de questions où il est question de Dieu, justement, ce thème-là, liberté-religion ou philosophie-religion, travaille dans des sens différents.
Un petit peu, oui, quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très lié. Hein. On voit bien d'ailleurs que tous ces philosophes, Descartes, Pascal, Leibniz, etc., sont évidemment très liés à la religion. Et donc, il y a des liens, effectivement, des vases communicants un petit peu. Enfin, il y a des rapports très forts. Par contre, il y a quand même des choses, moi, qui me posent question sur ce positionnement religieux. C'est certaines hypothèses, c'est-à-dire que dans la démarche philosophique, l'idée, c'est d'essayer de dégager les choses au maximum, de s'interroger pour arriver à dégager une vérité absolue, enfin, entre guillemets. Voilà. Et la difficulté qu'on peut voir, et d'ailleurs, même les ministres en parlent directement, c'est de concilier des hypothèses faites sur Dieu, donc qui sont peut-être plutôt du ressort théologique, par rapport à la philosophie. C'est-à-dire que, par exemple, l'hypothèse de Dieu est bon, ça, pour moi, c'est une hypothèse, quoi, voilà. On considère que Dieu est bon. Mais la vérité est peut-être ailleurs, et c'est quelque part se limiter, d'une certaine façon, d'imaginer que Dieu est bon. Quelque part, ça nous enlève des chemins de recherche, qui sont des chemins philosophiques. Alors je sais pas, voilà, bon, c'est une petite différence, hein, qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs. Et Leibniz dit bien qu'ils ont du mal à concilier le fait que Dieu, par hypothèse, est bon, bienveillant, et que le mal existe dans le monde. Bon, il y a toute une théorie d'ailleurs, hein, on va pas revenir là peut-être
oui,
en détail sur ça.
Mais c'est peut-être l'occasion de parler de Schleiermacher. Est-ce que lui, j'imagine qu'il a dû se pencher sur cette question, la question de la théodicée, l'existence du mal. Anthony Feneuil, est-ce que vous pouvez nous, partant peut-être de cette question, commencer à exposer la pensée de Schleiermacher et comment elle s'articule à cette question-là?
Alors, bon, d'abord, je ne suis pas sûr que c'est un bon exemple, la question de la bonté de Dieu. Est-ce que c'est une limite qui est posée à la pensée, ou est-ce que c'est une limite extérieure qui serait donnée par une église ou des présupposés croyants à la pensée de philosophes? Parce que là, pour le coup, on parle de philosophes quand on parle de Leibniz. C'est pas évident. Je crois qu'il y a quand même, justement, la bonté de Dieu, ça fait partie des choses qui ont été extraordinairement discutées dans l'histoire de la philosophie. Il y a des philosophes qui pensent que Dieu n'est pas entièrement bon. Voilà, il y a des... Et Leibniz, quand il dit, je crois, dans les essais de Théodicée, que la bonté de Dieu est posée par hypothèse, c'est parce qu'en fait, les essais de Théodicée concernent autre chose à ce moment-là. Mais l'hypothèse n'est pas une hypothèse non discutée par ailleurs. C'est qu'à ce moment-là, c'est une hypothèse qui a déjà été admise. Mais je ne crois pas pour Leibniz que la question de la bonté de Dieu, ça relève uniquement de la croyance irrationnelle. Même pas du tout, c'est qu'en fait, un Dieu qui ne serait pas bon, pour Leibniz, ce serait contradictoire. hein, parce qu'il y a pas de, faudrait après définir le bon, le bien et le mal.
Oui.
Quand on, pour Leibniz.
Oui, moi je pense que c'est totalement contradictoire, voilà. Totalement contradictoire, parce que même indépendamment de, d'une définition, parce que le dieu de Leibniz déjà, bon, moi je pense que ce n'est pas un dieu, ce n'est pas justement le dieu de la théologie, c'est un dieu des philosophes, et il a cette particularité que ce qu'il fait résulte d'une espèce de calcul.
Oui, il le définit même comme ça, en fait.
Ben,
il
voilà.
le définit comme
donc,
voulant améliorer, enfin, donner ah oui. un monde donc, idéal, voilà. entre guillemets, enfin, le meilleur possible.
Je suis d'accord avec ce que dit Anthony, c'est-à-dire, par définition, ce qui est visé par les
oui,
actions,
mais en fait,
c'est ça. C'est-à-dire, il n'y a pas ce côté arbitraire qu'on va trouver dans d'autres oui. visions de la divinité.
Mais il y a une petite nuance, parce que la bonté, effectivement, il faudrait replacer le... à qui s'adresse la bonté, en fait, vers qui elle est adressée. C'est-à-dire, est-ce que la bonté est... quelque chose qui s'adresse à la création dans sa totalité ou à l'être humain. Mmh. Et souvent, c'est peut-être ça le point de confusion qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que la bonté de Dieu, je pense que la plupart des gens l'assimilent à la bonté envers l'humain.
Mmh.
Et peut-être que c'est peut-être justement pas celle-là qu'il faut voir ou percevoir, quoi.
Alors, d'autant plus que la question de la bonté, là, spécialement cette question, et alors c'est pas déconnecté de Schleiermacher, ce que je vais dire, même si ce sont des questions quand même compliquées, hein, mais le débat... à l'époque de Leibniz, il est entre lui et Spinoza, notamment. Parce que Spinoza... et la question, c'est quoi ? La question, c'est quand Dieu... Alors, quand Dieu crée le monde, est-ce qu'il crée le monde en fonction d'un bien qui est extérieur à lui et au monde ? Et donc, il décide, est-ce que voilà, je choisis le meilleur monde possible en fonction d'un bien extérieur ? Mais là, Spinoza répond à Leibniz, enfin, ils ne se répondent pas, mais bon. Spinoza oppose à Leibniz l'idée que si c'est ça, alors Dieu est dépendant
oui.
d'une quelque chose de plus grand que lui, qui est le bien, et que Dieu est obligé de suivre. Et donc, Leibniz a une thèse opposée qui est que... Spinoza a une thèse opposée qui est que Dieu ne choisit pas entre différents mondes possibles, mais que le monde qui existe, c'est l'expression de la nature de Dieu... qui étant absolument infini, on ne peut pas imaginer mieux que la nature de Dieu. Donc le bon n'est pas ce que Dieu choisit comme si c'était extérieur à lui. C'est pas que Dieu est bon comme si le bon était autre chose que Dieu. C'est que Dieu définit
ce qui est
bon.
C'est un peu voilà. retourner les choses.
C'est exactement, c'est un retournement.
Le bon, c'est ce qui est créé en fait.
Exactement. Parce que, pourquoi ? Parce que celui qui le crée, c'est l'infini. Donc, on ne peut rien imaginer d'autre que celui qui le crée. Et alors, c'est intéressant parce que Schleiermacher essaye de faire une espèce de synthèse entre les deux en disant il faut garder l'idée spinoziste qu'il ne pouvait pas y avoir d'autre monde que notre monde. Il ne pouvait pas y avoir d'autre monde que notre monde. Dieu n'est pas n'a pas choisi en fonction de critères extérieurs.
Donc si je puis caricaturer... Dieu ne joue pas, en fait.
Voilà.
Il n'a pas cette possibilité, cette contemplation, cet espace qu'il aurait d'une certaine façon en disant bah, « moi, je vais faire ça ou ça » ou
exactement,
décider.
Exactement, parce que... Et là, on arrive très, très tout de suite, c'est intéressant, sur la question de la liberté, de comment on définit la liberté. La liberté de Dieu, c'est pas ce que nous, on imagine être la liberté maximale, c'est-à-dire choisir... entre deux possibles de manière plus ou moins arbitraire en fait. Alors le problème c'est que si donc pour Schleiermacher la question elle nous pose deux problèmes avec l'idée d'un choix de Dieu. Soit on dit il choisit pas arbitrairement, il choisit en fonction du mieux. Mais dans ce cas-là on dit il choisit
est,
pas.
Mais il est plus libre.
Voilà, il est plus libre puisqu'en fait il choisit en fonction du mieux et donc c'est le mieux qui dirige l'action de Dieu.
Là pour le coup Leibniz dit mais il choisit, il a quand même la liberté de choisir le mieux.
Voilà, mais on voit bien qu'il y a c'est une liberté un peu difficile à comprendre. Et c'est ce que lui oppose Spinoza. Et d'un autre côté, s'il ne choisit pas en fonction du mieux, il choisit en fonction de rien, ce qui est pire, parce que ça en fait, pour le coup, quelqu'un qui jette le dé. Hein, ou plutôt qui pose un acte totalement arbitraire.
Alors, juste, je vous propose de faire une toute petite pause musicale et partant de ces réflexions donc sur la liberté telle qu'elle s'articule à la divinité, peut-être on peut revenir à la liberté telle qu'elle s'articule dans l'individu et dans nos vies de chacun. Alors, je vous propose d'écouter Le rappel des oiseaux par Jean-Philippe Rameau, enfin de Jean-Philippe Rameau, pardon.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Nous sommes avec Anthony Feneuil pour une discussion, un débat sur le thème liberté et religion. Et donc, après avoir vu que cette thématique de liberté de la divinité, elle trouve un haut point de pensée et d'accomplissement philosophique avec Leibniz et Spinoza. Donc on en était arrivé à discuter donc de ce théologien Friedrich Schleiermacher. On n'a pas dit aux auditeurs qui il était, peut-être en deux mots, parce que le temps nous est compté, c'est peut-être bien de le situer, et peut-être ensuite revenir à la question de cette fois-ci, comment une liberté individuelle peut exister si en face il y a quelque chose qui est infini, et peut-être infiniment puissant.
Alors, effectivement, Schleiermacher, donc, c'est un théologien et un philosophe, pour le coup, qui est d'ailleurs plus connu en France comme philosophe que comme théologien, même si sa vocation, si je puis dire, son métier, c'était un métier de théologien, qui est un contemporain de Hegel, notamment, et de Kant, hein, une génération après Kant, disons, qui a enseigné à Berlin, voilà, l'essentiel de sa vie académique. Mmh. Alors, effectivement, c'est intéressant de repartir de ce qu'on disait avant, parce que souvent Schleiermacher, il est présenté comme quelqu'un qui réfléchit d'abord à partir de l'individu, justement, de ce que nous on pense de Dieu. On peut le prendre autrement aussi, malgré tout, même si c'est une présentation juste, hein. Il réfléchit d'abord sur la liberté de Dieu, justement, Schleiermacher. La liberté de Dieu, elle implique que finalement, on soit dans une situation, nous, où notre liberté n'est jamais complète. Puisque Dieu étant créateur du monde, il avait une liberté complète en créant le monde. Mais nous sommes dans une situation où de détermination plus ou moins grande à l'égard des autres choses qui nous entourent. Et la question, effectivement, c'est nous rapporter à cet être infini qui est Dieu, est-ce que ça nous écrase ou est-ce que ça nous libère? C'est ça, finalement, la question de fond. Et Schleiermacher dit, ça fait les deux. Ça commence par nous écraser parce que le sentiment, ce qu'il appelle le sentiment religieux, c'est un sentiment de dépendance absolue. C'est-à-dire le sentiment que on dépend toujours de quelque chose. Pas seulement, ou plutôt, on dépend tellement de Dieu. La dépendance qu'on ressent dans le sentiment religieux est tellement forte que ça n'est pas une dépendance du type de celle qu'on connaît dans la vie de tous les jours ou dans le monde. Quand on dépend de quelque chose dans le monde, on s'aperçoit de la dépendance qu'on a vis-à-vis de quelque chose au moment où on commence à la mettre en question.
Au moment où elle nous résiste.
Au moment où nous essayons de résister. Voilà. Ou au moment où elle nous résiste, c'est la même chose. C'est-à-dire je me défends de quelque chose, j'essaye de m'échapper d'un pouvoir. C'est là que je me rends compte de la force du pouvoir sur moi.
Vouloir vivre plus longtemps.
Voilà, exactement. Mon corps, exactement.
Du transhumanisme, oui. Ouais.
Tout à fait. Je suis dépendant de mon corps. Je me rends compte de ma dépendance à mon corps au moment où j'essaye de lutter contre cette dépendance. Donc, il y a une... dans la vie quotidienne, normale, on ne prend conscience de sa dépendance que en prenant en même temps conscience de sa liberté. Vis-à-vis de Dieu, on prend conscience de n'avoir aucune liberté, que de la dépendance. C'est, enfin, ou plutôt, il y a idée de Dieu, il y a sentiment religieux, quand on prend une conscience comme ça, la conscience d'être absolument dépendant.
Mais justement, ça, est-ce que ce sentiment-là, on est des êtres humains, on est limités, on n'est pas des anges, justement. Et Pascal dit qu'il veut faire l'ange, fait la bête. Donc, ce sentiment-là, est-ce qu'on peut l'avoir, est-ce qu'on l'a en permanence, ou est-ce qu'on l'a que, j'ai envie de dire, 5 minutes par jour après cet acte de contemplation où on s'extrait de toutes les choses et on fait ce regard dans l'infini, où on jette ce regard dans l'infini, ou alors on est tout le temps dedans de manière plus ou moins confuse, comme dirait Leibniz, avec une monade qui parfois voit clairement et parfois est prise dans la confusion. Comment ça se fait ? Est-ce que c'est juste par éclair, ou est-ce qu'on est plus ou moins dedans avec une certaine force qui augmente et qui diminue ?
Alors, pour Schleiermacher, je crois que justement, c'est un sentiment qui est permanent.
Permanent.
Qui colore tous nos autres sentiments. Mais y a la plupart du temps, c'est un sentiment qui est inaperçu, justement, parce qu'on ne s'aperçoit que de ces sentiments de dépendance et de liberté vis-à-vis des choses du monde. En réalité, cette liberté-là, la liberté qu'on a à l'égard des choses du monde, elle-même suppose toujours ce sentiment de dépendance absolue. Pourquoi ? Parce que ma liberté, je ne sais pas d'où elle vient. Finalement, ce sentiment de dépendance absolue, c'est de s'apercevoir que ce que je veux, l'origine de ma volonté, m'est obscure à moi-même. Donc n'importe quelle de mes volontés, et donc n'importe quelle, puisque à chaque fois que je veux quelque chose, je m'affronte à quelque chose qui me résiste, n'importe quelle de mes volontés et sentiment de dépendance dépend de ce sentiment plus absolu. Sentiment de dépendance plus absolu. Mais... Donc c'est commun, c'est en permanence. Mais la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Et donc, pour Schleiermacher, si je le comprends bien, mais c'est pas un penseur très simple, hein, Schleiermacher, ça vaut la peine d'être lu, mais ce n'est pas totalement simple, il y a des lieux, des traditions occupées à faire fleurir, à intensifier ce sentiment, pour le conscientiser, on pourrait dire. Et ces traditions qui sont occupées à faire fleurir, à intensifier ce sentiment, ben c'est justement ce qu'on appelle les traditions religieuses.
Donc ce qui prime finalement chez cet auteur, c'est le sentiment lui-même.
C'est le sentiment lui-même,
tout à fait. C'est le sentiment lui-même. Mais donc, il n'y a pas une vérité d'une certaine doctrine religieuse, alors si je comprends. Ou alors, il y a un bon adjointement entre les deux.
Non, il n'y a pas de... Les doctrines religieuses, leur raison d'être n'est pas la vérité. C'est le sentiment.
C'est le sentiment.
Voilà. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'avec ce sentiment, on ne puisse pas découvrir des vérités.
Ça rejoint, c'est marrant, ça fait penser beaucoup à Auguste Comte, là, pour le coup.
Oui.
Justement, exactement, que les rites sont là pour...
tout à fait. Tout à fait. Exactement. Auguste Comte, qui veut dépasser la métaphysique et qui lutte contre la métaphysique, il s'aperçoit effectivement qu'il faut donner un sentiment religieux néanmoins à cette humanité, qu'on ne peut pas l'en priver. Et pour le coup, il invente la religion de l'humanité. Hein.
Alors attention, pour Schleiermacher, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vérités métaphysiques qui peuvent correspondre à des doctrines religieuses. Simplement, il faut distinguer les choses. Le sentiment, la religion, elle est là pour cultiver le sentiment. Ça ne veut pas dire que ce sentiment ne nous apprenne pas des choses. Le sentiment d'absolue dépendance nous apprend, et on peut ensuite le réfléchir dessus et dire, ben voilà, qu'est-ce que ça signifie métaphysiquement, qu'est-ce que ça signifie sur la dépendance des choses du monde entre elles, etc. etc. Mais effectivement, l'origine de la religion... Et le sens premier de la religion, ça n'est pas la question de la vérité, c'est la question, en effet, d'un certain sentiment.
On arrive au bout de l'émission. Une dernière question, ouais. Sylvain ?
Non, mais c'est intéressant parce que ça fait penser un peu au concept de résonance, justement, qui peuvent être développés. Parfois, on voit aussi la résonance avec le monde. Et ça me fait penser un peu à ça, moi, ce sentiment dont vous parlez.
Résonance dans le sens cosmique, dans le sens
en
accord ou pas en accord avec la totalité du monde.
En phase avec le monde ou
et
pas.
Et pour le coup, ça rejoint bien la pensée de Leibniz, avec l'idée d'un cosmos, avec le lequel chacun doit s'accorder. Bon, bah, merci beaucoup, Anthony, pour cette émission. On continue pour la prochaine émission, parce qu'il y a encore un certain nombre de points à éclaircir. Donc, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission des Neveux de René, où nous continuerons à discuter de ce thème liberté et religion. Merci à Antoine pour la technique.